Bon, et si on continue, ça sera du visible. Donc, je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais je suis à peu près certain qu'on atteint l'infrarouge. Et l'infrarouge, ça va. Alors, si on généralise, si on est capable d'amplifier de l'infrarouge, vous imaginez qu'on est capable de faire un émetteur infrarouge et un récepteur infrarouge comme un émetteur radio et un récepteur radio. Ça veut dire qu'on aura un rendement de près de 100%, 98 ou ça, comme les rendements d'un émetteur radio. C'est plus des LED qui ont un rendement minable de 30% ou 40%. On aura 98%. Et si on fait ça dans la lumière, pourquoi pas, hein, on aura de la lumière émise avec un rendement de 30%. Hein. Et puis si on veut de la lumière colorée, ben, on changera la fréquence. Enfin, vraiment, c'est extraordinaire, quoi, qu'est-ce que ça ouvre. C'est pas les gens qui pensent que l'optique va rentrer dans l'électronique, ils font fausse route. C'est l'électronique qui va rentrer dans l'optique.
Soviétiques avaient développé des architectures d'ordinateurs ternaires.
Oui.
Quel genre de problème ça posait?
Ça pose un problème de précision de l'électronique, parce que je ne vous ai pas tout dit là-dedans. Hein. Quand vous avez au milieu du circuit, et surtout si c'était du 3D, au milieu du circuit, vous avez. Je ne peux pas aller mettre une capa chimique pour tenir la tension au milieu du circuit. Donc au milieu du circuit, il y a des variations de tension. Donc il faut que ça marche avec des marges de manœuvre énormes.
C'était
Et
du
donc,
pluricatu.
le cœur de ça peut avoir des variations importantes. Donc qui dit des variations importantes dit je ne peux pas faire du multivalué, quoi.
C'est là-dessus que ça avait buté?
Je pense que c'est la précision d'électronique nécessaire, et puis est-ce qu'on peut l'atteindre partout, quoi. Par contre, on fait des systèmes un peu de genre là pour faire des mémoires. C'est-à-dire des mémoires où on va stocker plus de bits, justement les stockant de manière un peu analogique, quoi. Ternaire.
J'ai une autre question qui est plus vaste. Je ne sais
Oui.
pas par quel bout la prendre. Je peux la prendre par trois bouts. Un, je suis frappé par on est frappé d'après l'exposé qu'on dit cette histoire, par les multiples ruses qui ont été déployées depuis 50 ans pour contourner des grandes lois.
Des grandes lois.
Des lois de la physique, par
Oui,
exemple,
oui, oui,
la
oui.
loi de Moore. Tu as parlé du problème de la longueur d'onde,
La loi de
etc.
Moore n'est pas une loi
etc.
physique. Hein.
Et
La loi de Moore n'est
quand.
pas une loi physique.
Non,
Oui.
ça serait intéressant d'en parler. Mais c'est une histoire où il y a quelques grandes lois fondamentales de la physique, pas comme la loi de Moore, et où les ingénieurs et les techniciens déploient une myriade de ruses pour se débrouiller pour faire mieux que ce que prévoient les lois de la physique. Donc ça peut poser des problèmes assez intéressants sur les rapports entre les catégories qu'on appelle sciences et techniques, par exemple. Donc ça c'est un des points
Mais il y a
d'intérêt.
beaucoup d'innovations qui sont venues dans ce domaine-là de la technique. Et que la science a plus ou moins bien accepté parce que c'était de la concurrence qui était jugée un peu comme déloyale. Moi, quand les personnes chez Bull avaient inventé l'outil à extraire la fonctionnalité d'un circuit intégré, je peux vous dire que les universitaires qui ont découvert ça 5 ans après, quand on leur a dit les mecs, c'était déjà fait, ils l'ont mal pris, quoi.
L'autre point parallèle, c'est qu'il y a beaucoup de choix techniques qui me semblent, en tout cas pour un profane, absolument contre-intuitifs.
C'est possible.
Tu as mentionné par exemple les MOS,
Oui.
tu en as beaucoup parlé, qui allaient contre les a qualifiés de phénomènes antiscientifiques, mais avant, il y avait vers 1960, il est évident que le germanium qui permettait beaucoup plus de rapidité et avait une supériorité sur le silicium. Et puis il s'est
Uniquement
éteint
là, mais
dans le domaine
il donnait des
scientifique le
éléments qui
silicium
étaient sensibles à la trop sensible à la chaleur.
à la chaleur.
Oui.
Et donc c'est par une application un peu marginale voulue qui était l'automation industrielle que le silicium a supplanté le germanium. Ensuite, dans le travail que je fais de longue haleine sur le plan calcul, on voit que les fabricants de gros ordinateurs s'intéressaient beaucoup plus bipolaire, rapide,
Mais les transistors, oui, les transistors de l'époque, le MOS d'abord était très mauvais à cette époque, hein. Il faut bien voir que le MOS est devenu bon dans les années 70, hein. Je veux dire avec le NMOS, hein. Et même à cette époque-là, c'était pas les transistors bipolaires tournaient plus vite, hein. Donc c'était quelque chose qui était relativement facile à faire et qui permettait de faire des circuits intégrés. Mais à cette époque, on n'utilisait plus les tubes, par exemple. On était.
Je reviens à ce que tu disais
oui.
Sur le phénomène anti-scientifique qui était un certain nombre de développements que tu décrivais la fenêtre que tu nous as ouverte sur le management par la loi de Moore.
Ah oui, mais ça, c'était un peu pour répondre à l'écuyer, tu sais, j'ai eu. Bon, je pensais qu'il allait venir, j'aurais bien aimé.
Tu disais que les États-Unis, il faudrait préciser ce que ça veut dire, les États-Unis fixaient deux buts, un pour le Vidom Pécule, genre le Leti et.
Non, pour les étrangers.
Pour les étrangers, et un plus élevé, et sans doute.
C'était interne, c'était interne. C'était même interne à une entreprise.
Tu as ajouté, c'est de la petite histoire. À mon avis, ce n'est pas du tout de la petite histoire, c'est la plus grande histoire qui englobe tout ce que tu as exposé. Et j'aimerais bien que tu nous en dises plus là-dessus.
Bah, je veux dire, il y a eu une conférence. Il y a eu une. Les États-Unis, fin des années 70, ont décrété.
Pardon, quand tu dis les États-Unis, c'est qui?
Le gouvernement américain. Le gouvernement américain. Non. Le gouvernement américain a décrété. À la suite des Japonais d'ailleurs, que ou à peu près en même temps, les Japonais à cette époque avaient un truc qui s'appelait MITI ou quelque chose comme ça, et ils avaient, qui était une institution tout à fait nationale, hein, du gouvernement japonais, et avaient décrété qu'ils allaient prendre la maîtrise de ce domaine. Hein. Et ils poussaient à fond, ils avaient envoyé leurs étudiants, dont qui avaient comme mission d'espionner, en plus d'autres trucs, hein, et je peux dire qu'ils y allaient joyeusement, et la microélectronique japonaise montait, montait, montait. Et ça a continué comme ça jusque dans les années, fin des années 90. Et les Américains ont décidé que eux, ils allaient garder la maîtrise. Hein. Donc ils ont pris cette décision vers la fin des années 70. Et ça, c'est une décision du gouvernement. Il faut voir, moi, j'ai un peu trempé dans le truc, aux États-Unis, la relation entre le gouvernement et les entreprises n'est pas du tout de la même nature qu'en France. Il est, par exemple, courant aux États-Unis que le gouvernement sous-traite une affaire d'espionnage à une entreprise. En France, je ne pense pas, hein. Mais peut-être, mais à certaines entreprises. Mais là, c'est courant. Hein. Moi, par exemple, j'ai été évalué par le gouvernement américain, je pense, à l'époque. À l'époque, pas que j'étais des fleurs, mais on n'était quand même pas si mauvais que ça. Et donc, fin des années 70, hein, avant... Donc, comment ça s'est passé? C'est par Digital Equipment, c'est passé. Digital Equipment nous a demandé de faire le reverse engineering du micro PDP-11 qu'ils avaient et dont ils avaient perdu toute la doc. Il y avait eu un schmilblick épouvantable de management. Ils avaient viré le manager et tout ça. Et ils avaient le chip. Ils pouvaient le fabriquer parce qu'ils avaient les masques, ils avaient tout, mais ils ne savaient plus ce qu'il y avait dedans. Il n'y avait plus de doc. Donc, ils nous ont demandé de faire la doc, de refaire le reverse engineering. On avait accès à tout ce qu'on pouvait, les masques en détail, tout. Et on a fait je ne sais pas combien de voyages à Menard, dans le Massachusetts, pour ça. Et on leur a donné le machin. Et au début, ils nous prenaient pour des rigolos, nous, les Frenchies. Hein. Et je me souviens toujours, ils avaient loué dans un hôtel, un motel qui était près de chez eux. Ils avaient loué une chambre, une pièce, quoi. Et ils nous faisaient un cours de microélectronique. Alors, on leur a dit, écoutez, les gars, ça, on connaît. Alors, ils ont monté un peu le cran. Ça, on connaît. Puis on a été jusqu'au bout comme ça, et on a dit, ben, on ne se doutait pas que vous en connaissiez tant. Bon, puis on a fait leur truc, on a fait le reverse engineering. Et puis, comme on y allait souvent, on bouffait avec eux à midi, on est devenu un peu sympa avec les ingénieurs qu'on avait autour de nous. Il suffisait qu'on demande à voir tel mec, il le payait en consulting et le mec venait, hein, c'était réglo. Hein. Et puis, à un moment, je me souviens, j'avais été manger au restaurant avec un ingénieur de ça. J'ai demandé, mais j'ai dit, est-ce que c'est digital qui a vraiment besoin de ça? Et il m'a dit non. Ils allaient abandonner ce machin-là, ils n'avaient pas besoin de même s'ils mettaient ce micro à la poubelle, ils en étaient au vax, ils étaient en train de faire le micro-vax, ils n'avaient rien à foutre du micro PDP-11. Surtout, alors ils nous ont demandé comment le mettre à jour, parce qu'il n'était pas compatible sur certains points, ça faisait doubler à peu près la surface, donc ils ont, ça ne peut pas marcher. Et j'ai dit, mais enfin, c'est... Pourquoi ? Ben, c'était une évaluation. Ils voulaient évaluer la valeur d'une équipe française en microélectronique. Et le résultat a été qu'on a paru trop bon. Donc ils ont tiré plus fort.
Ils ont embauché ?
Ah, ça, c'est ce que je voulais, mais ils n'ont pas voulu. Mais le résultat, ils ont tiré plus fort. Et en fait, il y avait, à l'époque, je travaillais avec F6, avec Thomson Semiconductor à Grenoble, à qui on avait donné toutes les indications sur le 6008 au moment où ils ont acheté la licence à Motorola. C'est-à-dire qu'ils ont eu la licence pour beaucoup moins cher parce qu'ils ont dit à Motorola, mais dites donc là, ce fil, il est coupé, pour quelle raison? Et la machine, elle est capable d'exécuter. S'il avait été fermé, elle aurait été capable d'exécuter telle instruction, pourquoi vous l'avez coupé? Enfin, tout ça, des questions de ce genre. Ils connaissaient le masque mieux que les vendeurs de chez Motorola. Les autres ont été tellement soufflés qu'ils n'ont pas pu mettre un prix très élevé à la licence. Et ils l'ont eu grâce à qui? À nous. Hein, qu'avions dépioté le machin avant. On avait prévu toute une manip, et en particulier, de faire une suite au 6008, une suite française. Donc on avait commencé à l'université à concevoir ce circuit, je me souviens, il s'appelait le P68. Et le P68, donc, on a eu toutes les oppositions possibles, mais toutes les oppositions possibles d'un des directeurs, on l'a identifié, de Thomson Semiconductor, je ne dirais pas lequel, parce que... Mais, bon, et ce mec a fait tout ce qu'il a pu pour ne pas que ça se fasse. Et il a même été jusqu'à dire, le concepteur qui s'appelait Presson, parce que c'était, il s'appelait, c'est pour ça qu'on avait appelé le micro P68, ce concepteur... On va le faire un stage sur le 6809 chez Motorola, hein, à participer à la conception du Motorola, du 6809. 6809 qui n'était pas compatible 6008, alors que nous, ce qu'on proposait, c'était un truc full compatible. Eh bien, il y a eu des actions, si vous voulez, qui ont été de ce type pour saboter la microélectronique française. On n'aurait pas été saboté, on aurait fait des microprocesseurs en France. Et on n'en a pas fait, parce que la seule voie d'en faire, c'était de le faire par Thomson Semiconductor. Et cet individu, qui était un personnage relativement important chez Thomson Semiconductor, a bloqué le système. Ah oui, évidemment. Et j'en sais d'autres choses sur cet individu, mais bon, je ne le dirai pas pour des raisons. Mais il y a eu des actions de sabotage intelligents, et nous, on a été suffisamment stupides pour tomber dans le panneau. Et pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas un élan politique pour faire les choses. On a parlé des grands projets, là. Le grand projet, on avait à cesser la politique des grands projets, déjà. Et puis, bon, ce qui est arrivé après 81 a fait que c'était plus la peine d'y penser. Après, ça a été la merde. Donc, le problème. Non, c'était vraiment... c'est dommage, quoi. C'est dommage, oui.
Est-ce que vous savez combien de temps durent les copyrights ou les brevets sur les plans?
Alors ça c'est un truc spécial, hein. C'est pas le copyright, c'est plutôt une histoire de copyright que de brevet d'ailleurs, hein. Parce que il s'était bien rendu compte, et on a un peu participé à ça, de l'importance de la topologie. C'est en particulier, par exemple, vous aviez deux microprocesseurs, le 6008 et le 6502, qui a eu un gros élan, puisque c'est lui qui équipait les premiers Apple. Et donc, ce 6502 se ressemblait du point de vue topologique, mais pas du point de vue structure interne. Et donc, pour dire l'importance de la topologie. La topologie a presque autant d'importance que le reste. De dire, si je mets les choses comme ça, ça, je vais gagner des fils, je vais gagner de la... Je ne suis pas sûr de l'avoir encore. Je ne l'ai pas. Par contre, j'ai d'autres plans, mais je n'ai pas ce plan-là. Et donc, ça ne présentait pas tellement d'inconvénients. Moi, si vous voulez, l'objectif, on a décortiqué à l'époque, à Grenoble, une grande partie des microprocesseurs de l'époque, donc dans les années entre 75 et 80 et quelques. Et en fait, l'objectif n'était pas de les copier. L'objectif, c'était d'essayer de remonter à la méthode de fabrication. Et j'ai écrit un bouquin. Et d'ailleurs, certaines sociétés, comme la société américaine qui avait acheté Philips, qui faisait des microprocesseurs aux États-Unis. Et puis, quoi ?
Signetics.
Non, c'était pas Signetics. C'était plus quoi. Eh bien, donc, ils avaient acheté une société. Eh bien, ils nous ont dit clairement, on vous donne les masques. C'est pas la peine que vous dépiotez. Mais vous venez nous faire une con sur ce que vous avez, les principes extraits. Voilà, bon, le jeu. Hein. Je l'ai fait chez plusieurs, comme ça. Voilà.
Donc, à usage interne, t'as le droit de copier un brevet.
Ah oui, oui, mais...
Le passage de la xérographie dans le domaine public, j'étais allé à Almaden, j'avais des imprimantes à laser chez IBM, hein.
Oui.
Mais il n'avait pas le droit de les vendre.
Oui.
Et dès que c'est tombé dans le domaine public, en 1974, oui. À ce moment-là, tout le monde...
Non, mais tu pouvais le vendre à condition d'acheter le brevet, la licence. Mais bon, voilà le truc. Hein. Et donc, ce bouquin, il est malheureusement épuisé, mais il a été vendu. Hein. Ça m'a fait plaisir de retrouver mon bouquin dans la librairie du MIT, mais enfin bon... Voilà. Bien.
L'idée de ce que vous appelez le rendement dans le temps, premier circuit intégré, l'apportement nord jusqu'au...
Ça, je ne sais pas, mais je sais que dans les années 70, le rendement pour les circuits qui étaient faits, genre 6800, machin comme ça, alors commençait avec quelques circuits bons par... les tranches étaient plus petites, c'était des 100 mm ou des choses comme ça, commençait par... quelques circuits bons, et finissait avec pratiquement 95% des circuits bons. Et donc, c'est ce qu'il visait. Et c'est pour ça qu'il ne mettait pas de système de réorganisation, de contournement de panne. Alors, ça a été fait dans certains circuits, mais ça coûtait beaucoup plus cher que ça ne rapportait, quoi. C'est une complication assez importante. Et puis, en même temps, des sources de panne, parce que vous pouviez aussi avoir des pannes là-dedans.
Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir des technologies asynchrones dont les promoteurs disent que ça permettrait d'accroître la consommation électrique ?
Écoutez, les circuits asynchrones, moi j'en entends parler depuis longtemps, depuis les années 70. Il y avait un bouquin qui était très célèbre de Lynn Conway et de Craver Mead qui a pratiquement démocratisé la microélectronique dans le monde. Hein. À cette époque, tout le monde s'était mis à faire des circuits intégrés et qui vendent. Il y a un chapitre sur l'asynchrone qui n'a pas beaucoup changé depuis. Hein. Et le problème de l'asynchrone, c'est que si vous regardez de près, vous avez un problème par porte au lieu d'avoir un problème global, hein, dans l'horloge. Donc, on ne gagne pas de ce côté-là. Si vous regardez maintenant du point de vue vitesse, vous apercevez qu'il faut deux temps par élément, un temps pour dire j'arrive, un temps pour dire je pars, donc vous divisez par deux la vitesse. Si vous regardez maintenant en nombre de transistors, vous apercevez qu'il faut des circuits spéciaux pour diminuer les aléas. Vous doublez les 30 nombres de transistors, donc finalement vous ne gagnez pas grand-chose.
Est-ce que vous pensez que
Moi, je n'ai pas vu. Il y a des études de fait dans les années, je veux dire 90, hein, sur le côté effectif de l'asynchrone, des circuits asynchrones. Il y a même eu un arme asynchrone qui a été fabriqué. Ça n'a pas été plus long. Parce que finalement, quand on regarde bien, on ne gagne pas par rapport au bon vieux circuit synchrone. Non, et même, pour rien vous cacher, les SOC actuellement sont faits en GALS, enfin, faits au niveau universitaire. GALS, c'est-à-dire globalement asynchrone, localement synchrone. Hein. Et donc, c'est en fait des modules synchrones qui sont interconnectés par des fils asynchrones. Hein. Eh bien, je peux vous dire qu'un jour, il y aura une grosse merde à cause de ça.
Oui, parce que pas ce que j'ai lu, mais hein, la propagation du signal d'horloge, c'est à peu près 30% de la consommation électrique.
Oui, quand vous propagez sur un grand circuit. Mais on peut, pour des circuits où vous ne sortez pas, c'est à l'interne, pour des blocs, hein, ça doit faire un peu moins que ça. Et sur toute façon, les blocs restent synchrones. Hein. Ils n'ont pas été jusqu'à faire des blocs asynchrones. Les blocs restent synchrones, mais maintenant, on a trouvé le truc pour rendre les blocs synchrones et les faire, les circuits, aussi grands que l'on veut. C'est-à-dire qu'on peut faire un circuit de 1000 blocs par 1000 blocs ou 1 million de blocs par 1 million de blocs et que tous les blocs soient synchrones. On sait faire. Je ne vais pas vous dire comment parce qu'on dépose le brevet.
Un transistor à effet de champ tubulaire.
Quoi ?
Technétron de Tesner, vous avez connu ?
Quoi ?
Un transistor à effet de champ tubulaire.
Alors, oui, les technétrons. Mais maintenant, ça se retrouve le même truc avec les nanotubes de carbone. Mais le nanotube de carbone, vous imaginez, vous faites un circuit intégré, vous prenez une poignée de cheveux, vous le coupez en petits bouts, vous le laissez tomber, et le pot